Véroa Afrique, Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Salut à toutes et à tous, Mohamedou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 9 janvier 2023. Il est 19h30 en universel pour commencer le sommaire. Le président Joe Biden est au Mexique pour un sommet des dirigeants d'Amérique du Nord. Au menu de ce sommet, l'immigration, le trafic de drogue et le commerce. Les condamnations se multiplient dans le monde au lendemain de la prise d'assaut de plusieurs bâtiments officiels par des partisans de l'ex-président Jair Bolsonaro. Au Nigeria, des hommes armés ont enlevé plus de 30 personnes samedi lors de l'attaque d'une gare. En RDC, au moins 16 civils ont été tués dimanche par des miliciens dans plusieurs villages de l'Ituri. À suivre aussi l'actualité économique et les sports, mais pour commencer, le journal. Le président américain Joe Biden est en visite de 2 jours au Mexique où il discutera des sujets comme l'immigration, le trafic de drogue et le commerce et probablement les événements au Brésil. C'est dans le cadre d'un sommet régional à Abdourahmandia.
Le président Joe Biden doit participer dans la capitale mexicaine au sommet des dirigeants d'Amérique du Nord qui réunit les États-Unis, le Mexique et le Canada. La première journée du locataire de la Maison-Blanche à Mexico sera surtout consacrée à la relation bilatérale. Le président américain, qui s'est rendu dimanche à la frontière des États-Unis et du Mexique, va compter sur les autorités mexicaines sur ce sujet politiquement sensible aux États-Unis. Le président américain dit vouloir réparer avec humanité un système d'immigration cassé, mais son administration a annoncé en particulier un projet de restriction du droit d'asile qui n'est pas du goût des associations de défense des droits humains. « Nos problèmes à la frontière ne sont pas apparus du jour au lendemain », a tweeté Joe Biden après son arrivée. « Et ils ne seront pas résolus du jour au lendemain, mais nous pouvons nous rassembler pour réparer ce système défaillant », a-t-il ajouté. Les arrivées de migrants à la frontière sud des États-Unis ont atteint en fin d'année dernière des niveaux records. Washington s'attend à ce que le phénomène s'amplifie encore quand prendra fin une mesure de restriction sanitaire décidée par Donald Trump et actuellement au cœur d'une bataille devant les tribunaux.
Au Brésil, le président Luiz Inácio Lula da Silva a repris le travail au palais du Planalto ce lundi, au lendemain des invasions de 3 lieux de pouvoir emblématiques à Brasilia, invasions qui ont suscité de nombreuses condamnations dans le monde, Claire Morin-Gibourg.
Lula s'est réuni aujourd'hui avec les présidents du Sénat, de la Chambre des députés et de la Cour suprême au palais présidentiel du Planalto, les 3 lieux saccagés hier dimanche. Les chefs de l'exécutif, du législatif et du judiciaire ont signé une brève déclaration commune en défense de la démocratie. Le centre de Brasilia était désert ce matin. Au moins 1200 sympathisants de l'ex-président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, qui occupait un campement, ont été arrêtés à leur tour. Les condamnations ont afflué du monde entier, de Washington à Pékin, Moscou, Paris, en passant par les capitales latino-américaines. Le pape François a déploré la violence sur le continent américain, évoquant le cas du Brésil. Jair Bolsonaro, qui se trouve en Floride aux États-Unis, a condamné du bout des lèvres les déprédations et invasions de bâtiments publics, mais a nié toute responsabilité.
En Iran, la justice a annoncé ce lundi 3 nouvelles condamnations à mort liées au mouvement de contestation déclenché par la mort en détention de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans arrêtée par la police des mœurs pour infraction au code vestimentaire, imposant notamment le port du voile en public pour les femmes. Selon Misa Online, l'agence du pouvoir judiciaire, les condamnés sont accusés d'être impliqués dans la mort de 3 membres des forces de l'ordre lors des manifestations dans la province centrale d'Ispahan le 16 novembre 2022. Ils ont été reconnus coupables de Muharebe, guerre contre Dieu en persan, a précisé Mizan Online. La France se prépare à d'intenses manifestations. Le gouvernement devant dévoiler mardi sa réforme des retraites pour laquelle l'âge de départ à la retraite sera vraisemblablement repoussé de 60 à 64 ans. Une volonté du président Emmanuel Macron qui suscite la colère du monde syndical. Ce report serait associé à une accélération de l'allongement de la durée de cotisation qui passerait à 43 ans avant l'horizon 2035 fixé par une précédente réforme. Mais la mesure d'âge sondages restent fortement impopulaires. Plus de deux tiers des Français y sont défavorables, selon un sondage IFOP fiducial.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En RDC, au moins 16 personnes ont été tuées dimanche par des miliciens dans plusieurs villages de l'Ituri, ont annoncé aujourd'hui des sources civiles locales. Cette province est en proie à des violences communautaires. Jacques Aristide.
Selon Charité Banza, président de la société civile de la chefferie de Baïma Nord du territoire de Djougou, les miliciens Codeco ont d'abord attaqué à Djiza, où au moins 4 personnes ont été tuées. D'autres sont allées vers Bloukoua, où ils ont tué 5 civils, à Drodro, où ils ont pillé des produits pharmaceutiques, et à Largou, où ils ont tué au moins 7 personnes, a détaillé M. Banza, confirmant un bilan provisoire de 16 morts. Pour sa part, le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri, a évoqué 4 civils tués, 2 miliciens mis hors d'état de nuire et un soldat a été tué dans les combats. La coopérative pour le développement du Congo, ou Codeco, dit défendre la communauté Lendu. Cette milice est accusée d'avoir mené ces attaques en représailles à la mort d'un enseignant Lendu, tué dimanche matin par des miliciens du groupe Zaïre, qui dit défendre la communauté Emma. La milice Codeco était représentée au pourparlers de paix organisé fin novembre à Nairobi, mais les miliciens Zaïre avaient décliné l'invitation.
Au Nigeria, des hommes armés ont enlevé plus de 30 personnes samedi soir. C'était lors de l'attaque d'une gare dans le sud du pays. Rosine Munezero.
L'attaque de la gare dans l'état d'Edo s'est produite samedi soir, selon la police et les autorités locales. Les assaillants ont ouvert le feu avant d'enlever les passagers qui attendaient un train pour Wari, plus au sud. Le responsable de l'information de l'état d'Edo, Chris Neikare, a indiqué que 32 personnes ont été enlevées, mais une d'entre elles a réussi à s'échapper, ajoutant que la police et les chasseurs locaux se sont lancés à la poursuite des ravisseurs. Les enlèvements crapuleux sont monnaie courante au Nigeria, mais beaucoup plus dans les états du nord-ouest et du centre du pays. En mars l'an dernier, des hommes armés ont fait sauter une portion de la voie ferroviaire entre Abuja et Kaduna, tuant 8 personnes et enlevant près d'une centaine de passagers qui seront relâchés au fil des mois contre paiement de rançon. Le 25 février, les Nigérians vont élire un successeur au président Muhammadu Buhari qui ne peut pas se représenter après ses 2 mandats.
La RDC ne peut plus accueillir de réfugiés en provenance de la RDC, a déclaré ce lundi le président rwandais Paul Kagame. Je refuse que le Rwanda supporte ce fardeau, a-t-il indiqué devant le Sénat. Dans l'est de la RDC, région instable, riche en ressources minières, les combats entre forces gouvernementales et rebelles du M23, une ancienne rébellion Tutsi, ont exacerbé les tensions avec le Rwanda voisin que la RDC accuse d'encourager la milice. Kigali nie toute implication. Ces violences ont poussé de nombreux Congolais à migrer dans les pays voisins, dont le Rwanda. Selon le HCR, le Rwanda comptait en novembre 2022 quelque 72 000 réfugiés congolais. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a nommé ce lundi Premier ministre Alain-Claude Bilibindi en remplacement de Rose Christiane Osuka-Raponda, nommée elle vice-présidente de la République, a annoncé la présidence. Monsieur Bilibindi, 55 ans, qui a détenu plusieurs portefeuilles ministériels depuis 2006, était vice-premier ministre et ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques du gouvernement sortant. Madame Osuka-Raponda, nommée vice-présidente, un poste vacant depuis mai 2019, dont la fonction est d'assister le chef de l'État et n'a aucun rôle d'intérim en cas de vacance du pouvoir. Au Mali, un gendarme a été tué et 3 autres ont été blessés dans l'attaque de leur poste de contrôle lundi sur l'axe Kati-Kita, à quelques 130 km de la capitale Bamako. Le poste de la gendarmerie de Sébékoro dans la région de Kita a été attaqué vers 2h du matin, heure locale et GMT, a déclaré Dibi Diawara, préfet de Kita. Cette attaque est la 3e depuis une semaine, non loin de Bamako. Les 2 premières ont tué au moins 2 pompiers et 3 civils et ont été revendiqués par les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda. Au Maroc, deux nouveaux corps ont été retrouvés après le naufrage fin décembre d'une embarcation de migrants marocains portant 15. Le bilan des morts dans ce drame a-t-on appris aujourd'hui auprès des autorités locales. Un premier corps a été repêché vendredi, le deuxième dimanche, selon Salem Abderdam, président de la commune de Mirleft. Les autorités marocaines avaient retrouvé le 30 décembre les corps de 13 migrants marocains après le chavirement de leur bateau de fortune près de Mirleft. Un total de 45 personnes se trouvaient à bord de cette embarcation qui se dirigeait vers Las Palmas dans l'archipel espagnol des Canaries. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Claire Morin-Gibourg.
Cameroun, les exportations de bananes vers l'Union européenne ont grimpé de 14% sur les 9 premiers mois de 2022. Selon Ecofin, cette progression signe aussi la plus forte hausse pour une exportation d'origine africaine. Sur la même période, la Côte d'Ivoire a vu une baisse de 5% et le Ghana a enregistré un recul de moins 16%. La Côte d'Ivoire a ouvert un nouveau poste de péage sur l'autoroute reliant la ville de Thiébissou à celle de Yamoussoukro. Cette autoroute devrait être prolongée jusqu'à Boaké durant le premier semestre 2023. Cette autoroute vient accroître le réseau routier du pays estimé à plus de 7500 km de voies bitumées. Les tarifs pour les voitures sont de 1000 francs CFA et de 1500 à 2000 francs CFA pour les poids lourds en fonction de leur taille. Les actes de piraterie sont tombés au plus bas dans le monde en 2022, mais la menace pour la sécurité maritime est toujours présente et prend des formes diverses, comme la contrebande ou le trafic de drogue, révèle le pôle d'expertise français dédié à la sûreté maritime, MICA Center. Dans les eaux du golfe de Guinée, jusqu'à récemment considérées comme parmi les plus dangereuses du monde pour la piraterie, seuls 3 navires ont été piratés en 2022 contre 26 en 2019.
À présent, les nouvelles sportives. Pour cela, nous accueillons Timothée Denormaille. Salut Timothée.
Salut Mamadou.
On commence par l'OM qui a annoncé ce lundi le recrutement du milieu de terrain offensif ukrainien Ruslan Malinovski.
Eh oui Mamadou, première recrue du mercato hivernal à Marseille, Malinovski arrive d'Atlanta Bergame en prêt avec option d'achat. L'arrivée de Malinovski, qui est âgé de 29 ans, avait déjà été espérée cet été à Marseille, mais les deux clubs n'étaient pas parvenus à trouver un accord. L'OM n'a pas détaillé les conditions de prêt du joueur, mais selon plusieurs médias, l'option d'achat attachée au prêt est obligatoire pour un montant de 10 millions d'euros plus 3 millions de bonus éventuels.
La rivalité Messi-Ronaldo se poursuit avec le PSG qui jouera contre les meilleurs joueurs d'Al-Hilal et Al-Nassr le 19 janvier.
Effectivement, le PSG de Lionel Messi ira à Riyad le 19 janvier pour y affronter une sélection composée des meilleurs joueurs des clubs saoudiens Al-Hilal et Al-Nassr, où a récemment été transféré Cristiano Ronaldo, a indiqué le club de la capitale lundi. Les Parisiens se rendront dans un premier temps à Doha le 17 janvier, comme ils ont coutume de le faire pour des stages ou des tournées depuis le rachat du club en 2011 par le fonds souverain Qatar Sports Investment. Mais au-delà de l'aspect financier de l'opération qui impliquera les sponsors du PSG, le voyage sera l'opportunité d'organiser des retrouvailles sur le terrain de Messi et Ronaldo, rivaux historiques du football mondial depuis plus de 10 ans. La vedette portugaise vient de quitter avec fracas Manchester United pour s'engager à Al Nassr jusqu'en 2025, où l'on estime qu'il gagnera 200 millions d'euros lors de son contrat.
Football toujours, le gallois Gareth Bale annonce sa retraite avec effet immédiat.
Gareth Bale, star galloise du football, a annoncé lundi qu'il mettait fin avec effet immédiat à sa carrière en club comme en sélection à l'âge de 33 ans et après 17 saisons professionnelles. Après une réflexion approfondie, j'annonce ma retraite immédiate du football de club et de sélection, écrit sur son compte Twitter l'ancien ailier du Real Madrid, 5 fois vainqueur de la Ligue des Champions, qui a fini sa carrière dans le championnat des États-Unis au Los Angeles FC.
Merci Timothée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouhamadou Oumfa, toujours avec vous, place au dossier du jour. Ici aux États-Unis, les législateurs républicains peuvent enfin commencer à travailler sur leur agenda à la suite de la prestation de serment du président de la Chambre, Kevin McCarthy. Veronica Balderas Iglesias de VOA examine les ambitions et les priorités de ces élus qui prévoient de faire échec à plusieurs projets de l'administration Biden. Le récit est de Claire Morin-Gibourg.
Après 4 jours d'âpres discussions, de négociations de couloirs et 15 tours de vote, finalement, le républicain Kevin McCarthy est devenu président de la Chambre des représentants. Il a promis à ses collègues républicains et au peuple américain de contrôler l'administration Biden.
Nous allons demander des comptes sur le retrait de l'Afghanistan, sur les origines du Covid et sur l'utilisation du FBI comme arme contre des adversaires.
La nouvelle position de McCarthy s'accompagne d'une série de concessions à ses détracteurs républicains qui vont maintenant façonner son leadership. Rien qu'un seul membre de la Chambre basse du Congrès pourrait demander une élection interne pour le faire tomber du perchoir. Lors d'une interview à l'émission ABC This Week, le représentant républicain Andy Barr a minimisé l'impact potentiel de cette mesure.
Nous ne faisons que revenir à la règle qui est en vigueur depuis 1910, bien avant Pelosi. Je ne pense pas que ce soit un problème pour créer le chaos.
Même si l'unité prévaut, le nouveau président de la Chambre devra trouver des moyens de négocier avec l'administration Biden sur des sujets épineux tels que l'immigration et la réduction des dépenses, ce qui, selon le député Scott Perry, est nécessaire.
Il s'agit de s'assurer que nous avons un budget sur lequel nous pouvons nous mettre d'accord, qui ne se contente pas d'augmenter de manière continue les dépenses, mais que nous nous approprions ensuite ce budget.
Le président Joe Biden a publié une déclaration pour féliciter M. McCarthy et dire qu'il est prêt à travailler avec les républicains quand il le pourra. De leur côté, les républicains de la Chambre des représentants souhaitent enquêter sur l'administration du président et sur les relations d'affaires de sa famille. Le chef de la minorité démocrate, Hakeem Jeffries, a déclaré à l'émission Meet the Press de NBC qu'il espérait pouvoir trouver un terrain d'entente avec le nouveau président de la Chambre dans l'intérêt du peuple américain.
J'ai hâte de m'appuyer sur les formidables réalisations de l'agenda Biden. Et si Kevin McCarthy est prêt à trouver un terrain d'entente, il trouvera des partenaires disposés à le faire parmi les démocrates de la Chambre.
Dans les rues de Washington, les Américains ont partagé leurs opinions sur le nouveau paysage du Congrès.
En tant que démocrate, je ne suis pas tellement enthousiasmé par la nouvelle direction. Mais j'espère qu'ils pourront trouver un moyen de travailler sur certains des problèmes auxquels notre pays est confronté. J'espère en particulier qu'ils n'auront pas recours à la politique de la corde raide, notamment en ce qui concerne le plafond de la dette.
Je ne prévois pas beaucoup de changements en matière de politique étrangère, même si je pense que les républicains vont utiliser le pouvoir de la bourse pour essayer de freiner l'immigration illégale.
Il s'agit de sujets sensibles qui pourraient se traduire par des négociations difficiles puisque les républicains détiennent une courte majorité à la Chambre des représentants dans cette 118e législature.
Le président Joe Biden a visité dimanche après-midi la ville américaine d'El Paso au Texas, frontalière du Mexique, avant de se rendre à Mexico pour rencontrer des dirigeants nord-américains. Il s'agit du premier voyage de M. Biden à la frontière sud-ouest depuis son entrée en fonction. Aline Barros de VOA fait le point. Récit d'Ilidico.
Le président Joe Biden s'est rendu dimanche à la frontière américano-mexicaine pour voir de lui-même la situation sécuritaire à la frontière sud. Pour son premier voyage en tant que président dans la région frontalière avec le Mexique, M. Biden a visité un port d'entrée très fréquenté et discuté avec des agents de la patrouille frontalière le long du mur qui sépare les États-Unis du Mexique. Bien que le président ait visité un centre local pour migrants, c'est la première fois qu'il est aussi près d'un endroit où environ 400 migrants se sont réfugiés sur les trottoirs d'une église d'El Paso, au Texas. Écoutons Jérémy Mejía, un migrant du Venezuela.
J'ai deux enfants. Je veux leur offrir une meilleure vie. Je ne veux pas qu'ils subissent ce que j'ai subi. Ici, nous avons été victimes de vols et de maltraitance. Il n'y a pas de droit de l'homme pour nous ici.
La visite de M. Biden à la frontière américano-mexicaine fait suite à l'annonce par son administration d'un nouveau processus d'entrée légale pour les migrants originaires du Nicaragua, de Cuba, du Venezuela et d'Haïti. Le gouvernement a également élargi l'application de la loi à la frontière pour permettre le renvoi immédiat au Mexique des migrants de ces quatre pays entrés aux États-Unis sans autorisation. Alejandro Mayorkas, ministre de l'Intérieur, explique.
Effective immediately, citizens from Venezuela, Nicaragua.
Dès maintenant, les citoyens du Venezuela, du Nicaragua, de Cuba et d'Haïti qui tentent de traverser notre frontière sans autorisation seront rapidement expulsés vers le Mexique et qui acceptera le retour de 30 000 personnes n'ayant pas utilisé les nouvelles voies d'accès aux États-Unis et dans leur pays d'origine. En même temps, nous accueillerons jusqu'à 30 000 personnes par mois en provenance de ces quatre pays pour qu'elles viennent en toute sécurité et vivre et travailler ici pendant 2 ans.
Dans le cadre du nouveau programme légal, les migrants de ces quatre pays doivent faire une demande en ligne, trouver un sponsor financier et passer des contrôles de sécurité pour avoir une chance de vivre temporairement aux États-Unis. Ceux qui se trouvent déjà à la frontière sont donc dans l'incertitude et craignent d'être détenus par les agents de la patrouille frontalière. À nouveau, Jérémy Mejía, migrant vénézuélien.
Nous ne pouvons pas traverser la rue car les agents de l'immigration peuvent nous arrêter.
Les Républicains continuent de critiquer l'approche du président Biden en matière de sécurité aux frontières. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a remis au président une lettre avec ses recommandations en matière de sécurité frontalière. Greg Abbott, gouverneur républicain du Texas.
Ce n'est rien d'autre que du spectacle, à moins qu'il ne commence à appliquer les lois sur l'immigration qui existent déjà aux États-Unis et qui sont contenues dans la lettre qui est fournie au président aujourd'hui.
D'autres estiment que les nouvelles politiques sont trop sévères et vont à l'encontre des lois actuelles sur l'asile. Fernando Garcia du réseau frontalier pour les droits humains.
Je ne pense pas que le président aura le temps de comprendre ce qui se passe ici à la frontière. Nous aurions souhaité qu'il ait plus de temps et avant l'annonce de tout plan, nous aurions voulu qu'il puisse rencontrer les gens ici à la frontière. Mais malheureusement, il ne l'a pas fait.
Alors que le président Biden se dirige vers sa prochaine étape, les responsables gouvernementaux affirment que les nouvelles mesures frontalières ne constituent pas une entrave à l'asile, car les demandeurs d'asile peuvent toujours demander de l'aide au point d'entrée.
Le Sénégal a connu dimanche l'un des pires drames routiers de son histoire. 2 bus de transport interurbains sont entrés en collision, causant la mort de 39 personnes et plus d'une centaine de blessés, dont certains sont dans un état grave, poussant le président sénégalais Macky Sall à décréter 3 jours de deuil national. Les Sénégalais, meurtris par ce drame, demandent des changements de comportement. Reportage de notre correspondant à Dakar, Sedina Abagay.
Avec près de 40 décès enregistrés, c'est d'après les autorités l'accident de la route le plus meurtrier enregistré au Sénégal. Un triste record qui inquiète grandement Mor Faye, qui dit avoir peur pour sa vie dans les transports en commun.
Là, je le dis sincèrement, j'ai peur et je ne le cache pas, surtout avec ces accidents. Les causes sont nombreuses pour moi, car maintenant, quelqu'un se lève du jour au lendemain pour se dire chauffeur sans même avoir les compétences requises. Ils n'ont ces papiers que grâce à la corruption.
Deuxièmement,
Maïnian est camionneur. Il admet que les chauffeurs ont une part de responsabilité dans ces accidents et que l'État se doit d'être plus ferme.
Je l'accepte. Nous savons que nous ne sommes pas exempts de tout reproche, car nous, conducteurs, avons quelquefois un comportement irresponsable. Au lieu de nous concentrer sur la route, certains sont focus sur leur téléphone ou ne se focalisent pas sur leur volant ou alors sur la route, alors que le chauffeur a besoin d'être concentré.
Omar Faï, lui, veut que les forces de l'ordre soient beaucoup plus fermes dans l'exercice de leurs fonctions, car jouant un rôle important dans la régulation des routes.
Les policiers ou gendarmes qui gèrent la route aussi doivent être plus rigoureux, car maintenant les chauffeurs passent les contrôles sans souci, juste en donnant de l'argent à ces forces de défense et de sécurité, ce qui est anormal. Ces hommes de tenue doivent être beaucoup plus rigoureux.
Près de 40 morts et plus de 100 blessés, un bilan qui fait froid dans le dos des citoyens sénégalais, qui réclame plus de vigilance et de fermeté dans la délivrance des permis de conduire et dans la gestion de la sécurité routière. Céline Abagui pour VOA Afrique, Dakar.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouhamadou Oumfa. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, www.voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube et Twitter. Restez à l'écoute de nos programmes. Merci d'avoir écouté. Au revoir.
Jonathan, ouais, je le magicien, Jonathan, Jonathan, Maelo, 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 Jonathan, Jonathan, Maelo, 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 Maelo. Vraiment, on a pleuré.
Sangana ya mama, oh, TV3, Dosana ya mwe, Beperka, Kutoleka, Odia, ah, eh.